Soyez les bienvenus sur Vogue Radio. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur Vogue, la station balnéaire, en Pays Royanais et Marais-Oléron.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Chut, on écoute la télé avec la galette lusacaise, le spécialiste de la galette charentaise artisanale pur beurre. Gâteau charentais, sans oublier la fameuse boîte officielle Fort Boyard et ses produits régionaux. La galette lusacaise, c'est Zeda de Saint-Just-Luzac sur la route de la gourmandise. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Chut, on écoute la télé avec votre concessionnaire Volkswagen, avenue André Dulin à Marennes. Vente de véhicules neufs, occasion, réparation et location de California aménagée pour des week-ends en toute liberté.
Vogue Radio.
Vogue Radio.
Vogue Radio.
103.1.
103.1.
Vogue Radio.
La station balnéaire.
Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Vogue Radio. Vous nous écoutez chaque lundi à 18h sur le 103.1 sur Marennes et la presqu'île d'Arvers. Et pendant une heure, eh bien, on va passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Et ça tombe bien tout de suite, voici le sommaire.
On est vraiment bien sans terre.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire, eh bien, de votre émission aujourd'hui, Chut, on écoute la télé de cet hebdo, eh bien, nous allons consacrer deux coups de cœur ciné. Le premier dans un instant avec J'irai mourir dans les Carpates, tiré de l'émission J'irai dormir chez vous, Antoine de Maximi, et le coproducteur du film sera avec nous d'ici quelques instants. Et puis, en fin d'émission, nous consacrerons également une spéciale sur le film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Emmanuel Mouret sera avec nous et accompagné de Vincent Macaigne et Niels Schneider, ces deux comédiens. Et puis nous allons eh bien, aussi consacrer une partie de cette émission aujourd'hui à la télésuite Un homme ordinaire sur M6. Nous aurons le plaisir de recevoir Pierre et Sarah Aknin qui sont producteurs et réalisateurs de cette mini-série en 4 épisodes. Et Arnaud Ducré qui joue Christophe de Salins sera également notre invité exceptionnel. Et puis Samuel Alain Habitbol également sera avec nous et jouer Rémi dans Plus belle la vie. Eh bien, vous allez le découvrir dans Un meurtre en pays Qatar. Ça sera donc samedi sur France 3, un rendez-vous là aussi à ne pas manquer. Alors on commence tout de suite, si vous voulez bien, comme d'habitude, par les audiences de la semaine dernière. C'est parti.
Les tops et flops d'audience.
Allez, dans les audiences de la semaine dernière, il y avait plusieurs événements évidemment à ne pas manquer, notamment le téléfilm sur le biopic de Grégory Le Marchal, Pourquoi je vis, c'est un véritable carton. Lundi dernier sur TF1 avec 7 376 000 téléspectateurs et 32,7% de part de marché. Du coup, c'est la garçonne qui souffre sur France 2 avec 1 million de téléspectateurs en moins par rapport à la semaine dernière avec 3 343 000 téléspectateurs. M6 avec Cauchemar en cuisine sans sort pas trop mal, avec 2 448 000 téléspectateurs pour 10,8% de part de marché. Mardi, il y avait du football sur TF1. C'était la Ligue des Nations France-Croatie. C'est un beau score, encore une fois. 5 727 000 téléspectateurs pour 24,7% de part de marché. Mais là, l'événement, c'était sur M6 aussi. Apprendre à t'aimer, le très beau téléfilm de Stéphanie Pilonka a fait un très beau score. 3 791 000 téléspectateurs et 17,2% de part de marché. Paris réussi pour M6. Qui s'offre donc du coup la deuxième place. Sur France 3, la stagiaire fait jeu égal quasiment avec 3 673 000 à la troisième place et 16,1% de part de marché. C'est donc France 2 qui est dans les choux avec les pouvoirs extraordinaires du corps humain, 7,9% de part de marché seulement et 1 744 000 téléspectateurs. Et puis évidemment, c'est Alex Hugo qui arrive en tête des audiences sur France 2. Ça, c'était donc pour mercredi et Grand Hôtel jeudi pour TF1. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière.
Les cinémas CGR de La Rochelle, l'Apollo Ciné 8 de Rochefort et l'Atlantique Ciné de Sainte vous présentent le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, spécial cinéma aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé avec J'irai mourir dans les Carpates. Ça sort mercredi au cinéma et on a la chance d'avoir l'animateur de l'émission J'irai dormir chez vous, Antoine de Maximi, qui est avec nous. Bonjour Antoine.
Ben bonjour.
Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous avoir parce qu'alors là, avoir un film tiré d'une émission, en quelque sorte, alors moi j'ai vu le film, ben on ne sait plus en fait hein, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. On est partagé avec plein d'émotions en regardant cette aventure. aventure dans les Carpates, mais déjà on va partir un peu en arrière. Et où est né ce projet de faire une fiction tirée de cette émission, Antoine ?
Alors l'idée est née tout simplement du fait que je me retrouve quand même régulièrement dans la série J'irai dormir chez vous, dans des situations qui sont un peu délicates. Quand on regarde, on s'aperçoit que grosso modo, un épisode sur trois, il y a un moment qui est un peu tendu avec quelqu'un, on ne sait pas très bien comment ça va se terminer. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que si le spectateur se dit « Oula, c'est un peu chaud », pour moi, c'est bien pire, parce que je ne sais pas si ça va bien se terminer. Et donc, forcément, j'imaginais ce qui pourrait arriver si un jour ça dérapait, si ça se passait vraiment mal. Et je me rendais compte que, filmant avec une manière qui est quand même originale et qui est un peu unique, d'avoir des petites caméras fixées sur moi, de partir tout seul, sans avoir de programme précis, etc., je pouvais écrire une histoire qui n'aurait pas pu être écrite avant. C'est-à-dire que on pouvait imaginer des choses qui étaient cachées dans les images, on pouvait imaginer des trucs qui étaient pas prévus, qui pouvaient me surprendre moi-même au tournage. Donc je me suis dit, il y a un terrain pour écrire une vraie histoire et même un thriller. Alors c'est vrai que moi j'aime bien m'amuser, que je prends un peu tout la rigolade, mais j'aimais bien aussi cette idée de thriller, d'enquête, etc. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de base, et en fait qui est sortie assez rapidement, parce que mine de rien, pendant toutes ces années, j'y pensais. Et au moment où je me suis mis derrière mon ordinateur, c'est sorti assez vite.
Et ça change. Après 17 ans de J'irai dormir chez vous, de passer comme ça à la fiction, vous êtes encore étonné, Antoine, par le succès de l'émission, de tous les endroits que vous avez visités 17 ans après. C'est une émission phare de France 5 avec Échappée Belle.
Oui, bien sûr que je suis encore étonné, parce que en fait, chaque fois que je pars en voyage, je sais pas pourquoi, mais je trouve toujours le moyen de me retrouver à l'endroit où il se passe quelque chose.
Donc, au bon moment, étonné, au bon endroit.
Oui. Donc je continue à être étonné quand je tourne des épisodes, et du coup je suis étonné du résultat, je suis étonné de voir l'ampleur que ça prend. Et là, avec ce film qui arrive, là, cette fiction qui repose complètement sur la série, et d'ailleurs les gens qui aiment la série vont complètement s'y retrouver. Hein,
parce complètement, oui, je vous confirme.
Il n'y a pas de trahison là-dessus.
Ah non, aucune.
Bah du coup, j'attends de voir, mais je m'attends à être étonné aussi, ouais.
En tout cas, moi j'ai été étonné en voyant, j'ai eu la chance de le voir un petit peu avant tout le monde, même avant l'été, pour vous dire, Antoine. Et c'est vrai qu'on se demande, par exemple, eh bien dans les Carpates, est-ce que c'est des comédiens ? Est-ce que c'en est pas ? Est-ce que c'est des vrais gens que vous avez rencontrés ?
Ça joue super bien.
Mais ça joue super formidable. Bien, en fait. Ouais. Tout a été tourné en Roumanie ?
Alors,
pour votre part,
oui, oui, pratiquement tout. Je peux pas rentrer dans les détails sans dévoiler l'histoire.
Bien sûr.
Mais ce que je peux dire aussi, c'est que dans le film, il y a des comédiens, enfin, il y a des gens que je rencontre pendant mon voyage qui ne sont pas des comédiens. C'est un couple de paysans qu'on voit à un moment, que j'ai rencontré quand j'ai tourné l'épisode Roumanie en 2005.
Ah oui, en effet.
Et je suis retourné les voir. Ils sont dans l'épisode Roumanie. Et je suis retourné les voir. Ils ont pris 15 ans et je leur ai demandé de. J'ai essayé de voir s'ils pouvaient jouer la comédie. Ils étaient excellents. Et du coup, j'ai tourné comme ça. Mais juste une petite chose, je sais pas si c'était prévu à quel moment de le dire, mais le film, c'est pas un faux J'irai dormir chez vous.
Ah non, pas du tout. C'est une vraie fiction, pour le coup.
Il y a une enquête, il y a toute une, des rebondissements, etc. Et j'ai mes comédiens principaux qui sont Alice Paul et Max Boublil.
Qui nous font beaucoup rire, qui amènent une sorte de légèreté. C'est vrai qu'Alice, voilà, elle amène une fraîcheur toujours un peu dans son côté garçon manqué. On la retrouve plus féminine dans ce film par rapport au film de Danny Boone.
C'est vrai, elle est plus féminine dans ce film. Et Max, lui, est moins. Il fait pas le clown. Il est drôle, mais pas en voulant être drôle. Moi, j'ai trouvé super là. Tous les deux, je les ai vraiment trouvés super.
Un joli duo, effectivement. On va planter un petit peu le décor pour donner envie un peu aux gens de y aller. On imagine que vous disparaissez en plein tournage d'une émission. On se demande ce qui vous est arrivé. Les dernières images qu'on voit, c'est un accident.
Oui.
Et évidemment, pour dérocher tout ça, on fait appel à votre monteuse qui va devoir remonter une sorte de cluedo pour vous retrouver. Peut-être,
oui, alors,
ou pas.
Au départ, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, les images ont été récupérées. Les bagages sont récupérés. Et c'est elle qui décide de monter ce dernier épisode. Mais au départ, il s'agit simplement de monter. Mais progressivement, elle commence à remarquer des petites choses qui sont bizarres, qui lui mettent la puce à l'oreille. Et elle va commencer à vraiment essayer d'enquêter. Et il y a un truc très important à dire, c'est que, et c'est pour ça qu'il faut aller le voir au cinéma, c'est que tout ce qu'elle va découvrir, le spectateur l'aura vu avant elle. C'est-à-dire que toutes les trucs qui vont faire basculer l'histoire, qui vont la faire progresser, le spectateur les a vus une première fois, mais il faut qu'il ait vachement bien, qu'il ait l'œil, mais il les a vus. Et c'est pour ça que je suis très content de l'histoire et de l'intrigue, parce que en théorie, on pourrait trouver. Sincèrement, c'est pas gagné. Mais oui. Il y a des tas de petites choses à voir et ça fait partie d'une sorte de jeu. Et ça, ça fonctionne super bien au cinéma.
En tout cas, on est très bien tenu en haleine tout au long des 1h35, ça je confirme. En 17 ans, il y a des voyages qui ont dû quand même friser un peu ce qui s'est passé là. Est-ce qu'il y a eu vraiment à un moment des voyages qui auraient pu tourner de façon dramatique ?
Bien sûr, bien sûr. Alors, je crois que je me débrouille assez bien en diplomatie pour arriver à désamorcer les situations qui pourraient déraper vraiment. Mais même au début du film, on montre quelques extraits de « J'irai dormir chez vous ».
Tout à fait, ça commence par là d'ailleurs.
Et oui. Et bon, quand on revoit la petite fusillade à Sainte-Lucie juste derrière moi ou enfin des choses comme ça, il y a eu parfois un mec qui veut me casser la figure et puis l'avantage de ces petites caméras permettent de filmer tout en continu. Donc on a ces moments tendus et c'est vrai que il y a eu régulièrement des moments dans J'irai dormir chez vous où c'était un peu tendu. Mais quand on constate qu'en 17 ans je n'ai pas pris un seul coup.
Alors mais c'est pas
que
mal.
Je vais dans les quartiers qui sont pas toujours les plus simples. Parfois, je vais dans des endroits qui sont super bien. Hein. Et ben, je me dis que la nature humaine est pas si mauvaise.
C'est bien, ça met ça d'espoir.
Non, mais clairement, il y a plein de gens sympas, vraiment.
Antoine, on écoute la bande-annonce.
Oui.
Allez, c'est parti. J'irai mourir dans les Carpates. Ça sort mercredi au cinéma. On l'écoute.
Ben voilà, je viens d'arriver au Mali et l'idée, c'est d'aller dormir chez les gens. C'est pas qui.
Ça, c'était le premier épisode de la série J'irai dormir chez vous. Et depuis, j'ai parcouru une 60aine de pays. Alors bien sûr, c'est vraiment compliqué. Et du coup, je me suis souvent demandé ce qui se passerait si un jour ça dérapait vraiment.
Antoine de Maximi, le présentateur de J'irai dormir chez vous, a disparu alors qu'il était en tournage dans les Carpates.
Je vous présente Agnès, la monteuse d'Antoine.
Lieutenant Laurent Logier.
Le lieutenant Logier vient de rapporter les affaires d'Antoine.
Oui, il y a beaucoup de matériel et pas mal de cassettes.
Il manque de cassettes ?
C'est peut-être Antoine qui les a perdues.
Coucou Agnès !
Quand le premier jour, tout le monde se fait des sourires comme ça, eh ben c'est un tournage qui démarre bien.
Alors là, je viens d'arriver à Brann, dans les contreforts des Carpates.
Je disais toujours, le plus important, s'il m'arrive quelque chose, c'est que vous finissiez le film.
J'ai envie d'aller vers le nord.
Je suis pas sûre que c'est bien là. Depuis qu'il est arrivé dans le nord des Carpates, il a du mal avec les gens.
Il y a
Allez, I'm leaving.
Viens voir, je vois.
Mais si c'était pas un accident ?
Bah non, Agnès.
Et c'est notre spécial « J'irai mourir dans les Carpates ». Le film sort mercredi au cinéma. Notre invité d'honneur aujourd'hui, Antoine de Maximi, l'animateur aussi de l'émission « J'irai dormir chez vous ». Antoine, vous restez avec moi ?
Absolument.
Eh bien, on revient dans un instant. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et de retour pour notre spécial « J'irai mourir dans les Carpates ». C'est pas « J'irai dormir hein, dans les Carpates ». Là, c'est non. Vraiment « J'irai mourir dans les Carpates oui. ». Antoine de Maximi est notre invité pour cette première aventure cinématographique.
Oui, parce que j'avais fait « J'irai dormir à Hollywood ». C'était un long métrage qui est sorti au cinéma, mais c'était un documentaire.
Et oui,
là, la grosse
c'est une vraie fiction.
C'est
là.
Une fiction. Ouais.
Exactement. Et alors, vous êtes bien entouré, parce qu'au côté production, vous avez deux producteurs, dont Julie oui. Gaillet, qui vous a suivi dans ce projet.
Tout à fait. Alors, Julie, qui produit beaucoup de films, mais qui sont des films souvent plus sérieux, plus profonds, mais assez décalés. Ça, c'est l'avantage aussi. La particularité de Julie, c'est qu'elle est gonflée comme productrice. Elle choisit pas des trucs faciles. Et puis j'ai mon deuxième producteur qui est Yves Darondeau Bonnepioche, qui lui me suit depuis 17 ans avec J'irai dormir chez vous. Et les deux sont totalement complémentaires. Et moi je dirais, je sais pas s'ils m'entendent, mais ils sont tous les deux un peu cinglés. Mais cinglés dans le bon sens. Tu vois, c'est les gens qui sont capables de prendre des risques, de faire quelque chose de non académique. Et ça, des gens comme ça, il y en a pas beaucoup. Parce que la plupart, je parle même pas des producteurs, je parle des êtres humains, il y en a plein qui sont très calculateurs, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais qui veulent bien faire les choses, mais qui ont pas la fantaisie qu'il faut. Et quand je dis cinglé, c'est être capable d'être fantaisiste et de sortir des cases. Et ça, tous les deux, ils ont été top.
Hey. Yves Darondeau, oui, justement, qui nous rejoint en même temps par la même occasion. Alors Yves, qu'est-ce qui vous a, vous, plu dans ce parcours, dans cette histoire justement de fiction? Qu'est-ce qui vous a convaincu finalement de suivre Antoine dans cette aventure folle?
C'est l'imprévisible.
C'est ce qui caractérise Antoine depuis le début qu'on travaille ensemble. Et c'est vrai qu'à chaque fois, Antoine a dû en permanence nous convaincre, nous embarquer dans des histoires un peu dingues. Et à chaque fois, c'était des belles aventures. On apprend aussi avec lui, on rigole, on découvre. Et là, c'est vrai que l'idée d'explorer un terrain totalement nouveau pour lui, qui était la fiction, tout en s'appuyant, et c'est ça l'intelligence de son projet, tout en s'appuyant sur ce qu'il connaît, c'est-à-dire son émission,
c'est sûr,
c'est-à-dire les rencontres,
et qui cartonne en plus,
aux quatre coins du monde, en filmant seul. Voilà, il a réussi, je trouve, à mêler le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le meilleur du documentaire et le meilleur de la fiction. Et il en fait une œuvre absolument singulière, qui lui ressemble totalement, qui est à la fois très surprenante, drôle. Voilà, je pense que c'est un film très généreux et très enthousiasmant.
Antoine, pourquoi les Carpates ?
Alors j'aime bien cette question parce que elle résume aussi la manière dont je fonctionne. Je me suis pas dit un jour je vais faire un film, où est-ce qu'il pourrait se passer ? Non, je fonctionne à l'instinct. Donc pour moi ça m'a semblé évident que c'était les Carpates. Mais pour tout, pour l'intrigue, pour le et donc j'écris sans me poser de questions et sans me mettre de barrières. Et je ne corrige que ce qui ne fonctionne pas. Et comme les Carpates à aucun moment ça s'est avéré être une mauvaise idée, bah c'est resté les Carpates.
Puis ça file bien, même le titre, en fait, dans le titre.
Oui, on a trouvé le... D'ailleurs, oui. C'est un soir où on était ensemble, le titre est sorti, et ça nous a semblé évident que c'était le titre.
Ouais. J'irai mourir dans les Carpates, c'est le film qui sort mercredi au cinéma. Est-ce que vous avez encore des rêves, Antoine, pour l'émission J'irai dormir chez vous ? Est-ce qu'il y a des endroits que vous n'avez pas explorés encore et vous avez envie de nous faire partager ?
Alors, bien sûr qu'il y a un certain nombre de pays, plus ou moins faciles d'ailleurs. J'aimerais bien aller en Corée du Nord, alors c'est pas du tout le moment. Parce que mais j'irai quand ça sera possible. Mais je suis sûr que ça va être passionnant. J'aimerais bien faire un truc aussi en Antarctique. Ça sera forcément un truc bizarre. Parce que t'es obligé de, tu peux pas débarquer comme ça en Antarctique.
Ouais.
Mais il y aurait un J'irai dormir chez vous en Antarctique. Par rapport à l'ensemble de la série, ça vaudrait le coup. Il y a un certain nombre de pays comme ça. Et puis, j'ai d'autres projets qui sont, bon, je veux pas trop en parler maintenant, mais, sincèrement, il y a une chose qui est certaine. C'est que je vais mourir avant d'avoir tout fait. Voilà.
Tellement ça fourmille?
Mais oui. Plein de projets.
C'est ce que je disais tout à l'heure, toujours étonné de voir le succès d'émissions sur France 5. Est-ce que c'est une sacrée base fan solide de départ et qui a permis aussi justement d'apporter un financement de départ au film de 250 000 euros ?
Tout à fait.
Les fans de l'émission vous ont vraiment suivi, quoi.
Ah mais oui, moi je remercierai jamais assez les Kiss Bankers, ceux qui nous ont suivis sur Kiss Kiss Bank Bank, qui se sont investis, pas uniquement financièrement, parce que ce que je disais, ceux qui mettaient 1 euro, le minimum c'est 1 euro. Et bien, même le mec qui met 1 euro, ça veut dire qu'il a pris le temps de le faire. Et ça fait partie des choses qui ont convaincu les professionnels du cinéma de suivre. C'est que t'as des gens qui ont pris le temps et qui avaient pas les moyens. Ils ont senti qu'il y avait une vraie communauté derrière ce film. Et là, on est content d'avoir pu aller jusqu'au bout. Mais je suis super content. Voilà.
Yves, quelle a été votre première impression quand vous l'avez vu la première fois monter le film ? Qu'est-ce que vous êtes dit ?
Quand je l'ai vu monter la première fois, y a beaucoup d'étapes avant de voir le film terminé. Donc d'abord on visionne les rushs, on échange avec Antoine, on comme c'était encore une fois un pari de mélanger encore une fois ces deux univers du documentaire et de la fiction, c'était une inconnue totale. Donc c'était important de pouvoir échanger dès le départ avec Antoine sur est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas dès les premières images. Et puis après le film s'est construit. En fait, ce qui a été très rassurant, c'est que dès le premier, ce qu'on appelle le bout à bout, c'est dès qu'on commence à mettre bout à bout les différentes séquences, l'univers d'Antoine était là, et c'était moi la plus grande inquiétude, je dirais. C'était pour moi essentiel qu'on retrouve absolument l'esprit d'Antoine, l'esprit espiègle, l'esprit de découverte, voilà, presque un regard d'enfant. Moi j'aime ça chez Antoine, et on le trouve pleinement.
Antoine, quelle a été la scène la plus drôle à tourner?
La plus drôle,
la tenancière d'hôtel. On va pas tout dire, hein, pour
sans développer, oui, effectivement,
mais ça devait pas être mal quand même, hein,
non, à tourner. Très marrant. Et mais j'ai un gros avantage, c'est que tournant ces séquences-là, donc là on est en train de parler de la partie J'irai dormir chez vous. Je dis en un mot, la monteuse, elle travaille sur des images, donc elle vit à Paris, etc. Et elle travaille sur des images. Mais ces images, il a fallu les tourner. Donc c'est la partie J'irai dormir chez vous. Et j'ai donc tourné une séquence avec une patronne d'hôtel. Je n'en dis pas beaucoup plus tout de suite. Mais le gros avantage que j'ai dans ce genre de situation, c'est que dans la pièce où l'action se passe, on n'est que tous les deux.
Il n'y a pas besoin d'avoir... Oui, parce qu'il n'y avait pas de caméraman, vous étiez tout seul pour le coup.
Non, on avait 2-3 personnes autour de nous, mais c'est tourné d'une manière unique. Je veux dire, J'irai dormir chez vous est tourné d'une manière unique, ce film est tourné d'une manière unique, voilà.
Bon, dernière question, comment on se sent là, deux jours de la sortie?
Bah, là, les avant-premières ayant été plutôt positives, on est assez confiant. Il y a le truc le plus important, vraiment le plus important, c'est que le film est ce que je voulais, il me ressemble, il est dans l'esprit de ce que je fais, c'est-à-dire sérieux, mais pas sérieux. On est pris par l'histoire et en même temps, je me prends pas au sérieux, quoi. Je veux dire, on se fait plaisir. Et J'irai dormir chez vous, c'est quoi? C'est pareil. Je veux dire, je me prends jamais au sérieux, mais parfois c'est sérieux.
C'est une émission culottée.
Voilà.
Pour faire un jeu de mots avec une autre émission de France 5, c'est une émission
produite par le même producteur.
Voilà, par nu et culotté aussi. Bon, ah bah voilà. Et bien comme ça, la boucle est bouclée, comme on pourrait dire. J'irai mourir dans les Carpates, c'est le film à ne pas rater au cinéma. C'est notre coup de cœur ciné cette semaine. Dans Chute, on écoute la télé. Merci beaucoup Antoine et merci Yves d'avoir été avec nous. On croise les doigts évidemment pour vous pour cette sortie. On est avec vous. Merci à vous deux.
À bientôt. Merci à vous.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre, là.
Non, mais pour avancer, il faut des preuves.
Le château de Dracula, s'il vous plaît. Est-ce que je peux dormir chez vous?
Je sais pas si on va pas changer de registre.
C'est quand même très bizarre de faire ce genre de geste discrètement. Là, on dirait qu'il complote.
Faut aller enquêter là-bas.
Vous croyez qu'on pourrait le retrouver? Qu'il pourrait être encore vivant?
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va démarrer eh bien notre spécial Un homme ordinaire, la fiction événement qui débarque cette semaine sur M6. Arnaud Ducré sera notre invité d'ici quelques instants. Juste avant de nous rejoindre, on va planter un petit peu le décor avec les producteurs et scénaristes de cette série événement avec Pierre et Sarah Aknin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et Anne Badel, scénariste justement de cette mini-fiction. Bonjour Anne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Deux semaines de diffusion, on est sur 4 fois 52 minutes. On avait eu l'occasion de se voir pour Souviens-toi, il y a 2 ans, sur M6, une nouvelle collaboration avec la chaîne, avec cette affaire librement inspirée de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, bien évidemment, qui a eu cette idée folle d'aller créer une mini-série sur cette affaire incroyable qui a secoué la France il y a maintenant 8 ans. Pierre, Sarah?
De façon conjointe, l'idée, à la fin de Souviens-toi, parce qu'on a lu des choses et qu'on s'est dit, en étudiant un petit peu le personnage, que ça pourrait être une superbe fiction complexe et intéressante. En tout cas, que le personnage nous avait vraiment saisi.
Alors, c'est une affaire de famille entre vous tous et Anne. Là, justement, comment on écrit autour de ce personnage qui est tellement aujourd'hui teinté de mystère? On ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est vivant, on ne sait pas si c'est vraiment lui qui a tué toute sa famille. Il y a tellement de mystère autour de ça. Comment on écrit autour de ce personnage, Anne?
Bah alors justement, on crée complètement à partir de l'origine, en fait, de la construction du personnage. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on s'est vraiment interrogé sur son enfance, sur évidemment ce qu'il en était de sa relation à sa mère, à son père, sur la construction de son couple, sur la relation à ses enfants, sur sa vie d'homme, avec son travail, avec l'argent, avec tout ce qui vraiment le constituait. En fait, c'est le point de démarrage et ce qui nous permet après, en fait, de dérouler un petit peu une bobine d'une certaine façon. Hein, c'est comme si le fait véritablement de bien planter exactement tous les éléments d'information qu'on a. Après, en déroulant, on arrive véritablement à entrer dans le personnage, à entrer dans la famille et nous-mêmes, en fait, évidemment, en croisant avec notre propre imaginaire à nous, hein, et à créer la fiction, créer ce qu'on peut imaginer véritablement et l'incarnation totale de cet homme et de cette famille.
Cet homme, justement, au bout du rouleau, c'est ce qu'on peut voir un peu au début de la fiction, qui est pris à la gorge de tout sens et qui ne voit qu'un seul exutoire, peut-être, c'est tuer toute sa famille pour se sortir de cette situation. Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose, en même temps, d'assez excitant de se dire, peut-être, que le vrai Xavier Dupont de Ligonnès pourrait tomber sur cette fiction?
Bah oui, c'est un rêve qui m'appelle. J'aimerais bien qu'il décroche le téléphone. Il me dit, là, vous êtes trompé. Là, j'ai pas fait tout à fait ça. Non, la réalité, c'est que c'est une histoire et moi qui m'a passionné et on l'a raconté et du fait divers, on est passé à la fiction. On a fait un film comme les autres films. Évidemment, c'est inspiré de faits réels, mais en même temps, on a fait un film comme tous les autres films avec la même rage et la même constance.
Qui a eu l'idée d'Arnaud Ducré pour incarner ce rôle incroyable de Christophe de Salins? C'est Pierre?
C'est moi qui ai eu l'idée, oui. Je ne sais pas pourquoi, et je trouvais qu'il y avait une ressemblance, et puis le contre-emploi me passionnait, parce que j'avais envie de parier là-dessus. Et puis très vite, on s'est rencontrés, et très vite, j'ai su que ça pouvait être lui. Et puis, de fur et à mesure, il est rentré dans le personnage, il l'a incarné, et il y avait des ressemblances même qui me paraissait intéressante pour le jouer.
On va en parler avec lui dans quelques instants, justement, comment il a vécu ce tournage, comment il a réagi quand vous l'avez appelé pour lui proposer ce rôle incroyable. Sarah, est-ce qu'il y a eu quelques anecdotes de tournage? J'imagine que sur un tournage comme ça, il faut décompresser de temps en temps aussi. Et du coup, faut essayer un peu d'avoir peut-être un ton plus léger entre les scènes.
Ah, il y a besoin de souffle entre les scènes parce que c'était parfois très dur, le moment avec tous les cadavres, le moment où il descend, où il est dans la maison, Arnaud Ducas vous en parlera mieux que moi, mais c'est vrai qu'il y avait une lourdeur pendant la prise qu'il fallait alléger. Alors il se trouve que Arnaud est un très bon camarade et s'empare de toute vanne possible pour détendre l'atmosphère, ce qui fait du bien à tout le monde. Mais soyons honnêtes, c'est quand même une histoire assez atroce. On rentre dans les tréfonds de son âme, de comment un homme en vient à faire l'inimaginable. Hein. Donc oui, c'est lourd. Voilà, soyons honnêtes, c'est lourd.
Est-ce qu'il y a eu des discussions un peu houleuses au sein de la famille quant à l'écriture sur le personnage avec Anne?
Oui.
Voilà, allons-y. Parce que je sais que pour Souviens-toi, il y avait eu des discussions.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a été, on n'était pas forcément toujours du même point de vue. En plus, on a une façon assez différente d'envisager les choses. Moi, j'aime bien que ça s'articule toujours à côté de quelque chose de, comment dire, une ligne, à quelque chose de vraiment un sillon qu'on creuse. Pierre, il se nourrit de plein de détails et en fait, il se balade. Puis en plus, il y avait quelque chose aussi, je pense, psychologiquement chez tous les deux, où en fait, on a mis beaucoup de temps à tourner autour du personnage. On a mis longtemps à se dire qu'il fallait évidemment qu'on soit de son point de vue à un moment donné. Et comment être du point de vue de quelqu'un qui a fait ça? C'est très difficile. Donc du coup, ça a créé une certaine forme d'agressivité, un peu d'évitement, où chacun à sa manière, on tentait un peu d'éviter d'être au centre du sujet. Et donc du coup, cette agressivité, on s'est lancé au visage à l'un et à l'autre. Et du coup, il y a eu pas mal de conflits. Ouais, c'est vrai.
Bon, en tout cas, on va découvrir cette mini-fiction événement. On a deux soirées qui vont nous être proposées cette semaine et la semaine prochaine. On va en parler avec Arnaud dans un instant. On va continuer à vous soutenir, bien évidemment. Merci à tous les trois d'être venus voir. Là, c'est bien parce qu'on a eu le réalisateur, la productrice, la scénariste et dans un instant, le comédien principal. Merci à tous les trois d'être passés nous voir. On va écouter la bande-annonce et juste après, c'est Arnaud qui nous rejoint.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup.
C'est au 55 du boulevard du Général de Lestrin que la police a trouvé l'horreur. La famille de Salin a été enterrée sous la banquise. Le corps de Christophe de Salin, le père de famille, n'a pas été retrouvé.
Mais c'est qui ce type?
Je peux disparaître du jour au lendemain aux Philippines. Une nouvelle vie.
Il fait celui qui les aime et après il les tue. Il faut absolument que je le coince. J'ai une info qui pourrait vous intéresser.
Vous récoltez des éléments strictement réservés à la police dans une affaire gravissime avec un meurtrier en fuite.
Ce meurtre, c'est tellement horrible. Tout le monde cherche à comprendre. Il a laissé presque 800 messages sur tous les sites religieux ces trois dernières années.
Salin aurait pu bénéficier de la complicité d'un ou plusieurs tiers.
Je sens que c'est lui. J'en suis sûre.
Continuer à parler évidemment de cet homme ordinaire avec Arnaud Ducré qui nous a rejoint. Comme promis, bonjour Arnaud.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de t'avoir, tu le sais, t'es toujours le bienvenu dans notre émission. Et là, on va te retrouver dans un rôle à contre-emploi, mais totalement hallucinant, dans ce rôle inspiré évidemment de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès.
Oui, voilà, j'ai beaucoup de chance que Pierre Acting, le réalisateur, m'ait proposé ça et que Capadrama, les producteurs et M6, aient suivi. Et cru en ce projet et en l'idée de Pierre d'avoir un acteur totalement différent de jouer un personnage totalement différent de ce que je peux jouer ou de ce qui peut paraître évident pour moi, quoi.
Alors quand on joue un des parents préférés des Français et que d'un seul coup on se voit proposer un rôle comme ça, ça t'a fait peur, ça, qu'est-ce que tu t'es dit?
Quand on me propose ce genre de rôle avec, comme tu le disais, inspiré de faits réels, de choses qui existaient, je me dis, c'est toujours pareil, l'écriture, quoi. Attention à quoi je vais m'exposer. Que ce soit inspiré de faits réels, c'est une chose, mais il faut que ça soit bien écrit. Et tout de suite m'a séduit le scénario, très intelligemment écrit, très bien écrit, par Pierre et sa femme, entre autres, qui est psychologue aussi. C'est une belle construction, une très bonne base pour jouer ce rôle. Alors, ça ne m'a pas fait peur, mais ça m'a excité surtout.
Tu m'étonnes. Alors, est-ce que justement, c'est encore plus excitant de se dire on va jouer le rôle de quelqu'un qu'aujourd'hui on recherche toujours activement, qu'on ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant, et que il peut tomber ou il peut voir cette fiction dans laquelle tu l'incarnes? Est-ce que ça a quelque chose d'assez troublant pour un comédien?
Ben ouais. Alors moi, je suis intimement persuadé qu'il est mort. Donc, je suis intimement persuadé qu'il est mort, donc je ne me suis même pas posé la question, mais je me suis rendu compte que plein de gens autour de moi me disaient « Mais tu te rends compte qu'il peut peut-être l'avoir ?» Alors oui, effectivement, il peut peut-être l'avoir. En tout cas, on n'a jamais résolu l'affaire, donc j'ai construit ce personnage avec ce qui existait, les documentaires, les témoignages, les dépositions de la police, tout ça, les enquêtes. C'est comme ça que je l'ai construit, on n'a pas la réponse. On l'aura peut-être, et je pense qu'on l'aura certainement jamais. Donc il a fallu construire comme ça ce personnage. Quoi.
Est-ce qu'il y a des scènes qui ont été plus difficiles que d'autres pour toi à appréhender ?
Ouais, alors toutes les scènes où je tue les enfants dans la maison, ça c'était compliqué parce que c'était 2 semaines de tournage dans la baraque, c'était lourd et la dernière scène où je tue le dernier enfant dans le dos avec une balle dans la nuque, j'étais parcouru d'un frisson quand j'ai joué cette scène, j'étais très ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup ému. Voilà, parce que j'avais enchaîné et tout d'un coup je me retrouve là, je me dis comment. Parce qu'à chaque fois de ce passage, comme c'est des faits réels, inspiré de faits réels, tout d'un coup tu dis ça a existé. Et Pierre, souvent, Pierre Aknin, le réalisateur, me disait tu te rends compte, Arnaud, ça a existé, merde. Je dis bah ouais.
C'est des frissons, hein.
Ouais, c'est très, très émouvant.
Alors justement, comment on fait pour sortir un peu de ça? On fait le vide entre chaque prise, on essaie de déconner un peu, parce que moi je connais ton âme un peu, voilà, justement, de déconner là-dessus. Donc comment tu t'es vidé un peu la tête de tout ça?
Moi je suis un. J'aime rire beaucoup. J'aime ça dans la vie. J'adore faire rire les gens. C'est un réel plaisir. Hein. C'est de voir les autres rigoler me fait beaucoup rire. C'est mon énergie. C'est ce qui me permet d'avancer et que le temps passe plus vite. Tout ça. Oui, moi je m'éclate. Alors Pierre Aknin, je vous explique. Hein, Pierre Aknin qui ne traite que de projets politiques, de faits réels ou ce genre de choses criminelles, est un mec qui déconne en permanence. Donc autant vous dire que lui et moi, c'était un carnage sur le tournage. Mais sans gêner évidemment mes autres partenaires, parce que je ne me permettrai jamais. Mais oui, j'ai besoin, c'est un exutoire, donc il faut que je rigole et que c'est comme ça que je construis aussi mes films, quoi.
Les scènes que tu as pu partager avec Émilie, justement, aussi, qu'on recevra la semaine prochaine, d'ailleurs, pour en parler.
Ah, c'était superbe. Alors, Émilie, en plus, quand on a travaillé sur le film, Émilie, je l'ai pas rencontrée avant le film beaucoup, parce que, quoi qu'il en soit, dans le film, je ne la croise pas, quoi. Si ce n'est ce qu'on découvrira au début du film, et je la revois après pour parler de l'accident. C'était agréable. Alors, je sais qu'Émilie, elle vous en parlera, mais je me permets de le dire, elle a énormément souffert, mais en tout cas, c'était compliqué pour elle de jouer avec un ordinateur tout au long des 4 épisodes. Elle est devant un ordi. Donc, c'était difficile pour elle. Son partenaire était un Microsoft.
Merci à toi d'avoir été avec nous, Arnaud, une nouvelle fois. On te souhaite plein de belles choses. Et puis à la prochaine.
À la prochaine.
C'était le bienvenu quand tu veux.
Ouais, je sais. Alors, donc l'année prochaine, alors, quand je viens tourner des films, tu me fais une petite interview. Quand je viens faire la promo, tu me fais une interview.
t'es un sociétaire de l'émission.
Non, mais c'est un plaisir de se faire interviewer par toi, sache-le.
Merci beaucoup, Arnaud. Et puis à très vite.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé consacré au meurtre en pays Qatar que vous allez pouvoir suivre cette semaine sur France 3. Et on a aujourd'hui pour en parler justement Roman Turlur qui est avec nous. Roman, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le producteur de ce meurtre en pays Qatar.
Bonjour, merci de nous recevoir. Et on est très content d'être là. Je suis avec Samuel Alain, Abid Bol, le comédien du film qui est le frère de la capitaine de gendarmerie et le premier suspect du meurtre en pays Qatar.
Bonjour Samuel Alain.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, très bien.
Alors moi je suis très heureux de t'avoir Samuel Alain parce que je crois que tu as marqué beaucoup les esprits puisqu'on t'a vu dans le rôle de Rémi dans Plus belle la vie et je crois que tu as fait verser beaucoup de larmes avec ta sensibilité à beaucoup de téléspectateurs.
Oui c'est ça, oui. Je voulais toucher plein de gens aussi qui se disent aussi qu'il y a plein de gens qui regardent
la série.
La série aussi qui... C'est aussi une réalité en fait, déjà, c'est une réalité de montrer ce que c'est la trisomie, justement, et merci de m'avoir regardé.
Et on a passé de bons moments, voilà, avec des très très belles scènes avec Léa François dans la série. L'histoire en quelques mots, on commence par planter le décor avec toi Roman.
Oui, alors le meurtre en pays Qatar, donc c'est un projet qui m'a été proposé par 2 auteurs. Et ce qui m'a touché tout de suite dans cette histoire, c'est vraiment ce personnage qui incarne une forme de différence et qui nous embarque avec lui. Alors en quelques mots, l'histoire, c'est évidemment comme tout meurtre qui se respecte, un meurtre dans un château Qatar. Et sur la scène du crime, il y a la capitaine de gendarmerie qui débarque, qui est incarnée par Élodie Fontan et... qui découvre sur la scène de crime Victor, qui est son petit frère, qui est incarné par Samuel, couvert de sang. Et donc qui devient premier suspect du crime. Aussitôt, on défère de l'enquête Élodie Fontan, puisqu'on se dit qu'elle va être évidemment dans un conflit très fort et elle va pas pouvoir être sans jugement vis-à-vis de son frère. Et donc à partir de ce moment-là, il y a un capitaine de la SR de Montpellier qui arrive, qui prend en charge l'enquête et elle va essayer de se battre pour rentrer dans l'enquête, innocenter son frère, prouver qu'il n'a rien à voir avec ça. Et sauf qu'il y a beaucoup de choses qui l'accusent, puisque il était amoureux de la victime et qu'il avait une relation amicale avec elle. Et voilà. Et donc il y a beaucoup de choses qui vont l'accuser. Et je vais pas en dire plus parce que, non, sinon,
parce que maintenant il va falloir aller voir le film.
Sinon je vais spoiler la suite. Voilà.
Exactement. Alors comme tout bon meurtrier qui se respecte, c'est ce qu'on disait, la part va être belle aussi au décor d'Occitanie, de ce pays Qatar. Samuel Alain, ta rencontre avec Élodie. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu l'avais vu déjà dans ces films, dans ces séries, comme Babysitting par exemple?
Oui, tout à fait. J'ai vu plein de films, plein de films et des séries aussi. C'est-à-dire comme Qu'est-ce qu'on fait au bon Dieu. Elle est très touchante. Vraiment dans la vraie vie, elle est très touchante. Elle est très douce. Elle est.
T'as accompagné, t'as donné des conseils?
Beaucoup de conseils, oui. Beaucoup de conseils à me donner à propos du métier en même temps. Et par rapport au film Meurtre en Picatar, il m'a beaucoup donné d'émotion, surtout ça, oui.
Comment a été choisi justement Samuel Alain et Élodie en tant que frères et sœurs? Qui c'est qui les a choisis tous les deux? Qu'est-ce qui vous a fait les choisir?
Alors déjà, Élodie, on avait une très belle expérience sur une série qui s'appelle Prise au piège pour M6 qu'on a faite ensemble. Et dans les fameux duos qu'on doit trouver pour les meurtras, on a assez vite pensé à Élodie en se disant que c'était une forme d'événement puisqu'elle n'avait jamais fait de meurtras. Et on lui a proposé et voilà, ça s'est fait très naturellement, vraiment dans la foulée de la série qu'on avait faite ensemble. Quant à Samuel, je l'ai vu dans deux scènes de mention particulière sur TF1 et j'ai eu un vrai coup de cœur pour vraiment toute la luminosité qu'il dégage et j'ai demandé à le rencontrer et je l'ai rencontré, ça c'était vraiment avant même d'avoir la réalisatrice, j'ai demandé à le rencontrer, on le sait, hein, j'ai eu un coup de cœur pour Samuel au bout de, je le redis, au bout de deux minutes il dansait du Claude François dans mon bureau, on se marrait comme des baleines et je lui ai dit écoute, après ça dépend pas que de moi, on va avoir une réalisatrice ou un réalisateur qui va venir sur le projet et puis on verra si on le choisit. Mais moi, il y avait une forme d'évidence que Samuel, ça allait être Victor. Et puis la réalisatrice a évidemment suivi quand elle a rencontré Samuel. Au bout de deux minutes, elle a dit « c'est bon, on y va, c'est Samuel ». Parce que il incarne tellement de choses et il a une telle joie de vivre, une sensibilité une telle volonté d'arriver à faire ce métier que c'est imparable. Franchement, ça a été imparable. Et je dois dire sur Samuel qu'il y avait beaucoup de choses en même temps, puisqu'il tournait Plus belle la vie, qu'il commençait en même temps que nous. Il avait beaucoup de dates. Et c'est vrai, je me disais, est-ce que ça va pas être un peu beaucoup pour lui? Parce que il commençait le métier. Et je me suis dit, c'est énorme tout ce qu'il va avoir à faire. Et de bout en bout, il a été hyper professionnel. Comme s'il avait toujours fait ça, en fait. Vraiment, et ça a été totalement bluffant. Et je dois dire que toute l'équipe était bluffée par... sa concentration, ce qu'il donnait dans les scènes, la manière dont il vivait son personnage, mais de manière très très puissante. Et il a même fait pleurer plusieurs fois les gens sur le plateau.
Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé?
À vrai dire, quand j'ai rencontré la première fois Roman, il m'a aussi beaucoup touché aussi, et je l'ai beaucoup aimé, et dès que je l'ai vu la première fois, je me suis dit, ça c'est bien, c'est pour moi ça.
C'est un producteur pour moi.
Oui, pour moi c'est un producteur pour moi, et je l'ai beaucoup aimé, et dès que je l'ai vu... On a fait aussi des collections de baskets. Voilà, c'est ce que j'ai à dire.
Et Stéphanie Murat, ta réalisatrice, comment elle a été?
Ma petite Stéphanie Murat, elle m'a laissé beaucoup ma liberté d'acteur, donc plus m'exprimer aussi. Et je lui ai dit merci beaucoup Stéphanie, et beaucoup pour tout. Et je l'aime beaucoup vraiment. Et je t'aime vraiment Steph.
Alors pour ajouter quelque chose là-dessus, quand il parlait de liberté d'acteur, c'est vraiment vrai parce que en fait, il adore improviser, Samuel, et il y a beaucoup de fois, beaucoup de scènes ou de séquences où Stéphanie l'a laissé continuer et improviser et elle a pas coupé la caméra et donc il y a même une scène celle avec Benjamin Bellecourt là qui arrive et donc il part dans un vrai jeu d'acteur, sans les dialogues, avec les tiens, avec de la vraie impro.
Ça te donne des envies? Tu te sens bien sur un plateau de télévision, de cinéma?
Alors tout à fait, je me sens très bien dans les tournages, je me sens libre. Surtout ça, je me sens libre, je rêve d'être acteur, quoi.
C'est déjà le cas, je peux te le dire. C'est déjà le cas.
Et aussi, un mot aussi, je touche aussi qui est plein de projets aussi, aux trisomiques, et aussi les handicaps aussi.
Alors moi, je trouve ça très dommage justement qu'une série comme Mention Particulière n'ait pas eu de suite, ou n'ait pas été continuée en série, parce qu'elle nous a bouleversé justement cette série-là. Donc, il va y avoir une suite ?
Non, pas pour l'instant, mais on a eu le réalisateur, justement, qui s'appelle Christophe Campos. Donc, des fois il dit oui et des fois il dit non. Donc, je préfère dire que oui, c'est vrai.
Bon, si on te propose de revenir dans Plus belle la vie pour avec quelques épisodes, tu retournes ?
Avec plaisir, oui. Et j'adore tourner dans la série parce que je suis aussi fan aussi de la série.
Bon, merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous. Ce meurtre en pays Qatar, on le suit cette semaine avec attention sur France 3. Ne le ratez pas. On y retrouve Elodie Fontan, Salim Keshouche et aussi Tom Hudson, Florence Caillé, Benjamin Belcourt et Louise Massin. Voilà, un beau casting.
Merci, oui. Merci beaucoup.
Merci à tous les deux. Merci Samuel Alain.
Et merci beaucoup aussi.
Nous allons maintenant pénétrer dans la dernière salle, le donjon. Fanchon !
J'arrive.
Allez, venez près de moi, Fanchon. Vous êtes toujours en retard, hein. Bon. Les cathares croyaient en la pureté de l'âme et considéraient donc le corps comme une prison, hein. Ils voulaient revenir à l'église des apôtres et vivre leur foi comme les premiers chrétiens. Ils s'infligeaient des jeûnes sévères et condamnaient les mœurs dépravées de l'église catholique. Toute la population de la région était soupçonnée de catharisme.
Et l'événement télé ce soir, eh bien, c'est aussi le grand retour de L'amour est dans le pré sur M6 avec des nouveaux agriculteurs dont vous avez découvert les portraits, eh bien, en mars dernier. Alors, avec la crise sanitaire, comment a fait la production? Eh bien, elle a fait le plein de nouveautés que va vous expliquer tout de suite Karine Lemarchand. On l'écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette 15e saison de L'amour est dans le pré. C'est une année un petit peu exceptionnelle. 15 ans, on a décidé de changer un peu les choses. Oui. Cette année, un vent de nouveauté souffle à travers nos prés et campagnes de France où le courrier de l'amour est arrivé pour la toute première fois directement dans les fermes de nos célibataires.
Ah oui, il y en a, c'est bon signe.
51 lettres, la vache.
Ça fait bizarre d'être l'objet de beaucoup d'attention, je suis pas habituée, mais alors du tout.
Ah, il y a de la dentelle et tout. Ah
J'aime rire, je suis taquine et tactile. Elle dit qu'elle veut qu'on la tire vers le haut. Moi, vers le haut, je veux bien.
C'est donc sans moi que ces 13 cœurs à prendre ont lancé, plein d'espoir, leurs invitations pour rencontrer celles et ceux qui les ont fait vibrer sur le papier.
Allez, on va se retrouver dans un instant pour la dernière partie de Chute, on écoute la télé spéciale. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Manuel Mouret, Nils Schneider et Vincent Macaigne seront nos invités. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chute, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. On écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, spécial aujourd'hui du film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Ça sort mercredi au cinéma. Un film d'Emmanuel Mouret qui a été classé dans les flamboyants au dernier festival du film francophone d'Angoulême. Et pour l'occasion, eh bien, on reçoit aujourd'hui les comédiens qui sont avec nous. Vincent Macaigne. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Qu'on avait eu l'année dernière, d'ailleurs, déjà dans notre émission ensemble. Et Nils Schneider également qui est avec nous. Bonjour Nils.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis le réalisateur, Emmanuel Mouret. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également, Emmanuel. Alors Emmanuel, on va planter un petit peu le décor ensemble, parce que je dirais que c'est un peu un film de confession, d'histoire d'amour. Il y a beaucoup de choses dans ce film.
Et puis moi j'aime dire, parce que c'est quelque chose qui en tout cas me plaît, c'est un peu comme ça que j'ai pensé, j'aime bien cette idée de polar sentimental. Voilà, un film de sentiments, mais avec suspense et rebondissement et machination, et voilà.
Qu'est-ce qui vous a fait choisir justement ces comédiens, Camélia Jordana par exemple, Émilie Dequen aussi?
Avant tout, je pense que tous les, voilà, leur talent, ce qu'ils proposaient, c'est-à-dire le fait qu'ils proposent quelque chose qui éclaire le projet et qui m'enchantait. Donc quelque chose qui va même au-delà de ce que j'écrivais. Et après, peut-être, en effet, chez chacun, parce que peut-être je l'oublie, mais peut-être aussi, et chacun ayant une couleur peut-être assez différente, mais quelque chose chez chacun de très sentimental aussi.
Avant de rentrer dans le vif du sujet avec les personnages de Maxime et François, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux spectateurs comme histoire de départ? Comment ça démarre?
Ah ben alors, celui qui résume le mieux l'histoire, pour l'avoir éprouvé, c'est Vincent.
C'est Vincent. Alors Vincent, vas-y, on t'écoute.
Oui, c'est l'histoire, c'est une rencontre amoureuse en fait entre les personnages de Nils Schneider et puis Camilla Jordana qui se rencontrent en fait. Non mais tu vois, là maintenant j'arrive plus à raconter bien l'histoire. je pars mal. Non, en fait c'est un film poupée russe en fait, et c'est vraiment l'histoire de deux êtres qui se rencontrent amoureusement, et pour passer le temps en fait au début ils se parlent de leurs histoires et on rentre dans ces différentes histoires, on découvre tous les personnages de leur vie
et leur intimité.
Et en se racontant, petit à petit, ils tombent amoureux l'un de l'autre.
Nils, alors comment on pourrait catégoriser un peu Maxime? Comment on pourrait l'expliquer? Comment on pourrait le définir, ce personnage?
C'est un garçon très sentimental, qui a le goût du romanesque.
Et qu'est-ce qui vous a plu en premier justement dans ce personnage de Maxime, Nils?
Ben, je trouvais ça beau qu'il tombe amoureux par la parole, en racontant finalement qu'il soit plein de désillusions au départ, et puis finalement en racontant par la parole son histoire à Camilla Jordana, il revit les choses et finalement et rien ne se passe jamais comme prévu quoi, et il retrouve finalement une espérance quoi, un enchantement au monde qu'il croyait en tout cas avoir perdu. Ça serait touchant.
François, on va parler de François un petit peu avec toi, Vincent. Alors, comment on pourrait le définir, François?
C'est pas facile de parler d'un personnage comme ça, parce que... j'aurais du mal, mais ce qui était assez beau, c'est que Emmanuel, déjà, quand il m'a parlé du personnage, il me trouvait un peu trop jeune pour le personnage, donc il m'a demandé un peu de me vieillir. Et du coup, je trouve que ça a ramené aussi ce personnage-là, qui est un peu plus installé. Mais ce qui est très beau, en fait, mais c'est dur de parler des personnages précisément dans ce film-là, parce que le film... Pour moi, c'est une sorte de cartographie amoureuse. Et en fait, chaque personnage est pris dans des paradoxes et dans plein d'histoires.
Il y a deux grandes histoires. C'est quelqu'un qui tombe fou amoureux d'une femme alors qu'il est déjà marié, qu'il a déjà une famille et tout ça. Et donc ça, c'est déjà une histoire où il est absolument bouleversé par sa rencontre avec Camilla Jordana. Et l'autre histoire, qui est aussi une histoire terrible, c'est que... Il s'aperçoit, il rencontre par hasard le nouveau compagnon de son ex-femme. C'est un personnage à qui il arrive quelque chose d'hallucinant. Voilà, c'est quelqu'un de très 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 amoureux. Bon, comme le personnage aussi de Maxime, qui est très...
Il est beaucoup question d'amour dans ce film.
Il y a beaucoup de questions d'amour.
Quels sont vos meilleurs souvenirs de tournage, pour le coup?
Il y avait plusieurs, c'est vraiment plusieurs parties quoi, parce que toute la partie avec Camilla Jordana, c'était vraiment un bloc quoi, dans la maison où on raconte l'histoire, ça c'était assez agréable quoi. Et puis après il y a une autre partie avec Guillaume Gouix et Jenna Thiem qui était beaucoup plus légère en fait, et c'est presque je trouve la partie du film, et je trouve tout le film assez léger, mais la partie avec Camilla Jordana, il y a quand même quelque chose de plus tragique quoi vers la fin du film. C'est agréable parce que il y avait presque deux films, j'ai l'impression, sur le tournage, mais j'ai vraiment tout aimé.
Vincent, meilleur souvenir sur le tournage?
Non, mais je trouve que j'ai pas de souvenir en particulier, dans le sens où tous les jours c'était joyeux en fait. C'est un film qui était joyeux à faire en fait. Donc,
Il vaut mieux. Il vaut mieux travailler dans la bonne humeur. Il est comment, oui, justement, tiens, Emmanuel, en tant que réalisateur?
Il est très doux. En fait, on pose toujours cette question-là, mais quelque part, enfin, quand on est face à un cinéaste qui emmène les gens vers son travail,
son univers,
il le fait d'une manière totalement naturelle, en fait. Il n'y a rien qui est forcé, puisque je pense que c'est je parle de toi là, mais c'est son univers. Mais même, je veux dire, tu corresponds à cette chose-là, dans le sens où c'est naturel, en fait. On rentre dans son univers. Emmanuel travaille avec des gens qu'il connaît très bien, ces gens-là aussi nous amènent vers son travail. Et c'est très simple et très doux, en fait. Il y a la même tendresse dans le travail que la tendresse qu'on peut ressentir dans le film, je pense.
Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, c'est mercredi au cinéma, c'est dans 2 jours. Emmanuel, comment on se sent à 2 jours de la sortie?
Eh bien, non, mais excité, excité. On a une très grande chance, c'est qu'on a un accueil qui est bien au-delà de
vos espérances,
de mes espérances. Ouais. Donc c'est très joyeux. Voilà. J'espère en tout cas que le film plaira au public comme il a plu à la presse et aux spectateurs en avant-première.
Eh bien, on va le suivre, bien évidemment. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, ça sort mercredi au cinéma. C'est le nouveau film d'Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Nils Schneider, Vincent Macaigne, Émilie Deken, Guillaume Guix et Jenna Thiam. Merci à tous les trois d'être venus nous voir. Et on va tout de suite se quitter avec la bande-annonce.
Qu'est-ce que je me sentais bien avec toi. Mais c'est vrai, j'avais pas d'attirance. C'était vraiment plus qu'impossible de m'imaginer être avec toi.
Pourquoi c'est impossible?
Parce que tous les gens autour de moi me voyaient bien avec toi. Tu disais pas parfois en observant ton ami que oh, c'est toi qui aurais dû être à sa place?
Je savais pas très bien ce que j'éprouvais.
Mais t'étais amoureux d'elle, c'est assez évident. Sinon ça aurait pas été aussi cruel. Moi les histoires d'amour des autres, j'adore ça. Je trouve ça toujours passionnant, ça rappelle les siennes, celles qu'on a vécues, celles qu'on n'a pas vécues. Je veux pas être la maîtresse d'un homme marié.
J'aurais pas dû me dire que j'étais mariée.
Mais... Non, sinon j'aurais pas couché avec toi.
Pourquoi tu voulais coucher avec moi alors?
Parce que t'étais mariée. Pensant que justement t'allais pas vouloir recommencer. Je veux pas que tu t'imagines qu'une relation durable et officielle est possible entre nous.
Ah bon? Pourquoi?
Je suis déjà mariée.
T'es mariée?
T'es avec quelqu'un, je peux pas.
Même un baiser?
Même un baiser, c'est un principe.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, ça sera une émission très cinéma avec d'abord deux coups de cœur en salle qui nous attendront avec la sortie d'Eléonore. Nous aurons à cette occasion Nora et Amrou Hamzaoui qui seront nos invités exceptionnels. Nous aurons également le plaisir de recevoir pour la sortie du film Les Apparences de Marc Fitoussi, le chanteur Benjamin Biolay avec qui on parlera évidemment non seulement eh bien, cinéma mais aussi musique bien évidemment puisqu'il a un album qui est sorti il y a pas très longtemps et s'apprête à remonter évidemment sur scène aussi. Nous aurons le plaisir aussi de parler d'un film qui sort sur Amazon Prime qui s'appelle Brutus versus César avec Kyron qui sera notre invité également. Enfin, vous l'avez compris, il y a encore beaucoup de surprises qui vous attendent lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Vogue.
Vogue.
Vogue Radio.
Vogue Radio.
Allez, n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé, c'est toute la semaine avec La Quotidienne à 13h30 et 18h30 sur Vogue Radio. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com et pour rester connecté avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chute, on écoute la télé. Vous pouvez également télécharger dès maintenant nos applications pour iPhone et Android Chute, on écoute la télé. Et je vous retrouve également lundi prochain à 18h pour La Grande Hebdo. D'ici là, passez une très très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Vogue Radio.
Chute, on écoute la télé avec les piscines de l'étang. Votre concessionnaire Everblue en Charente-Maritime. Construction, rénovation, entretien, produits piscine. Deux adresses à votre service. 116 cours Paul Doumer à Sainte et 17 avenue du Général de Gaulle à La Tremblade ou sur lespiscinesdelétang.com.
Chute, on écoute la télé avec vos boucheries du bœuf tricolore. Viande 100% française. Trois points de vente en Charente-Maritime. Avenue du 11 novembre à Rochefort. Route de Rochefort à Royan. Et avenue du Général Leclerc à Saint-Pierre-d'Oléron. Chut, on écoute la télé avec votre casino partouche de la Tremblade Ronce-les-Bains, ouvert 7 jours sur 7. Machine à sous, jeux de table, restaurant l'ardoise et soirée animée vous attendent 46 avenue de la Chaumière à Ronce-les-Bains. Jouer comporte des risques, appelez le 0805 020 000. Appel gratuit.